Eh oui, nous allons parler de Palestine ce soir. Alors nous avons en plateau Thomas Sommer-Oudeville. Bonsoir.
Bonsoir.
Parce que tu étais l'an dernier un des membres, et en tout cas un des organisateurs ou des multiples co-organisateurs, puisque c'était une organisation internationale, de la flottille. Alors la flottille, c'était une flottille de bateaux qui était partie pour tenter de casser le blocus de Gaza. Donc c'était il y a un an, vous connaissez la fin, et en même temps, vous venez de sortir un livre qui ressemble un peu, c'est terrible, mais un peu à un thriller. On se demande toujours si vous allez finir par vous en sortir et arriver à casser ce blocus. Et donc c'est La Flottille, c'est aux éditions Zone. Alors peut-être avant de commencer, toi Thomas, comment tu es rentré dans ce mouvement?
Dans ce mouvement, parce qu'en fait j'ai un investissement sur la Palestine en particulier, mais sur le monde arabe en général, qui date de un peu plus d'une dizaine d'années. En fait, j'ai commencé la première fois que je suis allé en Palestine, c'était en 2002, et ensuite j'ai été pas mal dans le reste du monde arabe, et notamment en Irak en 2004, à chaque fois dans un investissement qui était associatif ou humanitaire. Et j'ai pu voir la réalité de ce que c'est que la réalité d'une occupation. Parce que c'est assez marrant, mais on entend en ce moment en France le mot occupation revenir. Moi, je sais ce que c'est qu'une occupation, une vraie, avec des checkpoints, avec des tanks, avec des gens qui vous braquent avec des armes, avec la violence quotidienne d'être dans. D'être humilié dans son propre pays, dans son propre village, d'avoir des gens qui sont enfermés dans leur propre maison puisque les soldats occupent le toit. Voilà, ça, c'est des choses réelles. Et une fois qu'on a vu ça, c'est impossible de l'oublier. Et c'est impossible d'oublier qu'il y a effectivement en Palestine un peuple qui est occupé par un État, Israël, occupé par une armée, l'armée israélienne, et que malgré tout, ces gens résistent. Ces gens résistent pour continuer à essayer d'obtenir leurs droits, leur liberté, leur dignité. Et voilà, moi j'ai découvert ça il y a un peu plus de 10 ans. J'avais entendu parler avant de la Palestine, notamment parce que par ailleurs, je suis rentré dans le militantisme assez jeune, à la fois militantisme syndical à l'université, puis politique à la LCR, qui est devenue le NPA maintenant. Mais entre eux, effectivement, entendre parler de la Palestine comme une cause qu'on défend de loin et effectivement être sur place et voir les gens au quotidien, il y a une grande différence et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas.
Et petite question, quand tu étais parti en Palestine ou en Irak, avec quelle organisation étais-tu parti?
En Palestine, je suis parti avec les missions civiles, donc la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, qui a été créée au moment de la deuxième intifada en 2001. Et en Irak, c'était avec un collectif d'organisations et d'ONG. Alors, il y avait aussi les missions civiles, mais il y avait aussi une organisation humanitaire comme UNPONTEPER, qui est une organisation italienne. Il y avait aussi l'organisation pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Focus on the Global South. Donc, c'était vraiment un pool d'organisations. Et l'idée, c'était de travailler en Irak pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer sur plusieurs niveaux, sur le niveau économique, mais aussi au niveau des droits de l'homme, mais aussi au niveau politique, pour essayer de comprendre ce que l'occupation américaine était en train de détruire, mais aussi de complètement changer en Irak et de voir qu'est-ce qui était en train de se passer. Et
Et
donc,
puis aussi de témoigner, c'est une
de
chose
témoigner.
essentielle parce que c'est le genre de terrain où il n'y a pas de témoins finalement.
Où il y a assez peu de témoins, finalement, et d'autant plus que pour l'Irak, une partie des témoins étaient ce qu'on appelle, les journalistes étaient embed, c'est-à-dire que se retrouvaient embarqués au sein de l'armée américaine. Et donc, effectivement, l'idée, c'était de travailler sur un certain nombre de choses et de témoigner, et notamment on a assez vite travaillé sur tous les disparus. Et sur les milliers de disparus qui sont disparus juste pendant l'invasion et après pendant l'occupation. Et donc on a travaillé notamment avec Amnesty International, avec Human Rights Watch, avec d'autres organisations comme ça, pour essayer d'arriver à mobiliser y compris les familles de disparus à ce moment-là.
Donc tu avais une véritable expérience de la guerre et des conditions, en tout cas de violence et d'occupation, avant la participation à la flottille.
Franchement, je pense que ce genre d'expérience-là, tout le monde s'en passerait, mais il se trouve qu'effectivement, soit la Palestine ou l'Irak ou d'autres endroits, je me suis retrouvé dans des zones qui sont des zones de conflit. Mais peut-être aussi parce que du fait de mon investissement et puis aussi de maintenant de mon travail pour un certain nombre d'associations et d'ONG, effectivement, c'est là où l'injustice, elle est la plus forte. Et c'est dans ces moments-là et dans ces endroits-là où l'injustice, elle est la plus forte et où, effectivement, il y a assez peu, tout compte fait, de témoins de cette injustice. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans des zones pas très rigolotes.
Et en tout cas, alors, en Palestine, de ces injustices, c'est le blocus de Gaza. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette histoire du blocus ?
Bah, les choses, elles sont malheureusement assez simples. C'est-à-dire que, d'abord, on parle d'un blocus. Aujourd'hui, il y a un blocus total, qui est maritime, aérien et terrestre, et qui est organisé par Israël, mais où jusqu'au changement de régime en Égypte, l'Égypte était aussi le garde-chiourme, c'est-à-dire qui fermait aussi l'autre côté de la frontière, tout ça sous supervision internationale. Mais par exemple, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'il y a un blocus maritime qui existe autour de Gaza depuis plus de 41 ans.
Ce qui fait que les pêcheurs ne peuvent pas aller en fait au large.
Les pêcheurs, ils ont le droit à une zone de 3 km. Au-delà, enfin, 3 km de bande côtière, ce qui est ridicule, et ce qui fait que tous les ans, depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, il y a des pêcheurs qui sont blessés ou qui sont tués par la marine de guerre israélienne qui les empêche de sortir. Et quand on demandait à n'importe quel pêcheur si on peut pêcher normalement à 3 km des côtes, c'est pas possible. Donc il y a un blocus maritime depuis plus de 41 ans, et depuis en fait 1967, je dis 41 ans en fait parce qu'il a été brisé une première fois après 41 ans en 2008 quand des bateaux grecs, deux bateaux, ont réussi à rentrer à Gaza et à briser le blocus de manière symbolique en 2008. Ça faisait 41 ans qu'il n'y avait pas un bateau étranger, un bateau qui était rentré dans le port de Gaza. Donc voilà un peu pour parler de ce que c'est que ce blocus. Maintenant, le blocus total, il a été mis en place après la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006. Et il a été mis en place pour faire payer à la population de Gaza ce vote-là. Et ce blocus, il est complètement illégal, mais non seulement il est complètement illégal, mais il est dénoncé par l'ensemble de la communauté internationale. Il a été dénoncé officiellement par une résolution des Nations Unies de juin 2009, qui demande la fin du blocus et qui demande à ce que l'ensemble des biens et des personnes puissent sortir et rentrer à Gaza. Mais il a été dénoncé par l'Union européenne, que ce soit par la voix de Catherine Ashton, mais aussi par tout un tas de gouvernements de la planète, dont le nôtre, dont le gouvernement Sarkozy, qui a officiellement appelé à la fin du blocus. Il a été dénoncé par, évidemment, l'ensemble des organisations humanitaires qui travaillent à Gaza, Croix-Rouge comprise. Et ce blocus, il a été dénoncé pratiquement dès le départ, même si, effectivement, quand il a été mis en place, il a été fait avec, sous le regard bienveillant d'une partie de la communauté internationale qui voyait là l'occasion d'essayer de faire pression sur le Hamas. Sauf que la réalité de ce blocus, c'est qu'avant la réelle mise en place de ce blocus, il y avait environ 10 000 camions par jour qui rentraient à Gaza. Et aujourd'hui, il y en a moins d'un tiers. Gaza, c'est 1,5 million d'hommes, femmes et enfants qui vivent dans la zone la plus densément peuplée du monde. La bande de Gaza, c'est quelques dizaines de kilomètres de long. Et effectivement, avant le blocus, il fallait environ 10 000 camions. 10 000 camions rentraient et sortaient tous les jours de Gaza pour assurer à cette population une vie à peu près digne. Aujourd'hui, on en est à moins du tiers. Par ailleurs, il n'y a plus rien qui sort de Gaza, ou très très peu de choses. Ça veut dire qu'il n'y a plus les possibilités d'une exportation de la production agricole, des quelques fabriques qui existent à Gaza. Donc il y a aujourd'hui une population qui est en état de survie. Alors, qu'on se trompe pas, on n'est pas en train d'expliquer que Gaza c'est Haïti et qu'il y a des gens qui tous les jours meurent de faim à cause de blocus. Par contre, il y a tous les jours des gens qui meurent à cause du blocus parce qu'ils ne peuvent pas être soignés, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de Gaza, parce qu'aujourd'hui les hôpitaux n'en reçoivent pas ni les médicaments dont ils ont besoin, n'ont pas les infrastructures qui permettent de soigner les gens correctement. Ça, c'est une réalité.
Puis les gens ne peuvent plus reconstruire leur maison parce qu'il n'y a pas de matériel.
Et puis,
les gens ont des conditions quand même de vie très, 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 très dures.
Très dures. Et puis, je rappelle qu'en 2009, fin 2008, début 2009, il y a eu l'opération Plomb durci qui a été condamnée aussi, là encore, par l'ensemble de la communauté internationale. Il y a eu un rapport Goldstone qui est toujours en place et qui continue, dans ce rapport, continue de dénoncer très clairement les crimes de guerre israéliens. Mais la réalité de cette opération, c'est 1400 morts, dont une majorité de civils. Et c'est surtout des centaines et des centaines de maisons, d'usines, de bâtiments qui ont été détruits à Gaza et qui ne peuvent pas être reconstruits. Parce que, notamment, tout ce qui est matériel de construction aujourd'hui ne passe pas la frontière. Et donc, effectivement, ça veut dire que les hôpitaux qui ont été endommagés par la guerre ne peuvent pas reconstruire, mais c'est aussi les bâtiments de l'UNRWA, qui est l'Office des réfugiés, qui gère à la fois des hôpitaux, des écoles, mais aussi l'alimentation d'une grande majorité des Gazaouis. C'est ça, la réalité. Et tout ça, aujourd'hui, il y a l'impossibilité de reconstruire Gaza. Et d'ailleurs, c'est un des points majeurs de plusieurs rapports qui sont sortis il y a cette année, l'année dernière, qui ont été établis par un pool d'organisations qui vont depuis Amnesty International, Oxfam et tout un tas d'ONG qui travaillent à Gaza, qui disent un des problèmes majeurs aujourd'hui à Gaza, c'est l'impossibilité de toute reconstruction et donc l'impossibilité d'assurer une vie à peu près normale à 1,5 million de personnes.
Ce qui n'est pas rien, 1,5 million de personnes.
Non, ce qui n'est pas rien. Et au-delà de ça, aujourd'hui, avec le blocus, Gaza, c'est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Voilà.
Et donc, pour lutter justement contre ce blocus, avant d'organiser la flottille, il y avait une opération qui avait lieu au Caire à l'époque de Moubarak, hein, puisque les choses changent extrêmement vite en ce moment dans cette partie du monde, qui s'appelait l'opération Code Pink. Il se trouve...
Ça s'appelait pas l'opération de Code Pink. C'est dans le livre, on l'appelle l'opération Code Pink, mais ça s'appelait Gaza Freedom March. Mais effectivement, en fait, ça a été organisé par une organisation américaine qui s'appelle Code Pink, qui est une organisation aux États-Unis qui a été fondée par un collectif de femmes contre la guerre et notamment contre la guerre en Irak, mais qui aussi, du coup, s'intéresse largement au Moyen-Orient. Et qui avait déjà envoyé quelques petites délégations à Gaza les années précédentes, et notamment juste après l'opération Plomb durci. Donc, ils avaient la volonté d'essayer d'organiser une grande mobilisation internationale et d'essayer de faire pression à la fois sur la communauté internationale, mais aussi sur l'Égypte, pour arriver à rentrer à Gaza. Voilà, et montrer qu'on pouvait aussi briser le blocus.
Et alors, que s'est-il passé ?
Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce qu'à l'époque, le gouvernement Moubarak avait décidé qu'il ne mécontenterait pas le grand frère américain et l'allié israélien, et que donc on ne passerait pas à Gaza.
Mais néanmoins, toutes ces associations qui avaient fait le déplacement, parce qu'il y avait énormément de monde.
Il y avait 1500 personnes à peu près qui venaient du monde entier. Oui.
On gardait contact et ça a créé des liens, une nouvelle manière de fonctionner entre toutes ces...
Je pense que c'est un phénomène qui est plus large. Ça, c'est assez intéressant parce que c'était effectivement la première fois qu'il y avait une opération d'une si grande ampleur où les gens décidaient de prendre l'avion, d'arriver au Caire et ensemble d'essayer d'avancer vers Gaza. Mais il faut se rappeler qu'il y a eu aussi, par exemple, des convois assez importants, assez médiatisés qui ont traversé l'Europe et une partie du monde arabe pour essayer d'arriver jusqu'à Gaza. Je pense que depuis une dizaine d'années, depuis la deuxième intifada, mais je pense que ça s'est accéléré ces dernières années, notamment avec l'opération Plomb durci, mais aussi la guerre au Liban, etc. Il y a une prise de conscience de la violence d'un État, qui est celle de l'État israélien, de son impunité, parce qu'aujourd'hui, c'est le grand allié des États-Unis et d'une partie de l'Europe, et donc d'une injustice incroyable. Et je pense que ça mobilise de plus en plus de gens. Et du coup, il y a effectivement une sorte de mobilisation citoyenne qui se crée et qui fait que, d'une manière ou d'une autre, de plus en plus de gens, d'associations, d'organisations du monde entier, et qui représentent toutes les couleurs, toutes les religions, ont décidé de s'investir pour dire une chose très simple. Dire, il y a un droit international, c'est le minimum qu'on a. Ce droit-là, il doit être respecté, il doit être aussi respecté par Israël. Et c'est un, et il n'y a pas de raison que ce droit-là ne puisse pas s'appliquer aussi au bénéfice des Palestiniens. Et que, puisque la communauté internationale juste se paye de mots, eh ben nous, on va agir, on va arrêter simplement de s'énerver devant sa télévision, et on va agir pour montrer que si la communauté internationale au moins ne fait rien, au moins les peuples du monde sont pas dupes et veulent et peuvent faire des choses.
Mais juste sur cette question-là, en fait, ça a démarré, ces mouvements de solidarité internationale, ils ont évidemment, bien sûr, démarré bien en amont du blocus de Gaza, et notamment bah, pour les campagnes civiles que tu connais bien, ça a démarré en 2001.
Ça a démarré en 2001, juste au départ de la deuxième intifada. Mais de même que dans le monde anglo-saxon et notamment aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle ISM, International Solidarity Movement, qui a été créé à peu près la même époque, et dont même si c'est pas exactement, on fonctionne pas exactement de la même façon, mais ça c'est pas très important. Mais l'idée c'est de dire quoi ? C'est de dire, il faut envoyer des citoyens de notre côté. Il faut que, justement, parce que sur le fond, le blocus de Gaza c'est quelque chose de très visible. Mais de l'autre côté, en Cisjordanie, vous avez un mur qui enferme la Cisjordanie. Au moment de la deuxième intifada, il était en construction, ce mur. Il y avait une violence très forte dans les territoires occupés. Il y avait la volonté de dire, OK, il faut envoyer des citoyens de l'autre côté de la mer pour rencontrer les Palestiniens, pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, pour leur dire qu'il y a une solidarité qui existe, et puis pour pouvoir témoigner de ce qui se passe, et pour pouvoir rentrer et dire, voilà ce qui se passe en Palestine, voilà ce qui se passe au quotidien. Et je pense que ça a été fort. Je pense qu'il y a effectivement des dizaines de milliers de gens qui sont partis en Palestine depuis plus de 10 ans, et qui sont rentrés et qui ont expliqué ça dans leur famille, dans leur quartier, dans leurs usines, dans leur lieu de travail. Et je pense qu'il y a une prise de conscience et qui fait qu'effectivement, il y a un mouvement international qui grossit et qui veut agir. Et donc, effectivement, il y a les gens qui partent en Palestine. Il y a eu les convois, il y a eu la première tentative de Gaza Freedom March. Et puis, il y a eu la première flottille. Je sais pas si c'est le résultat, mais où c'est le prolongement de tout ça, avec effectivement des réseaux qui se connaissent, des organisations, des associations qui ont déjà travaillé ensemble sur telle ou telle chose, et puis là qui se mettent en commun, puis avec d'autres, avec des gens qui s'agrègent. Au départ, l'histoire de cette première flottille, au départ, il y a 2-3 bateaux qui sont prévus. Et puis, au fur et à mesure, il y a des copains, des associations qui disent « Ah, nous aussi, on va essayer, on voudrait essayer. » Et les choses, elles fonctionnent comme ça. Alors après, ça marche. Et au fin mai, on part avec 6 bateaux, un 7e qui est en retard et qui arrive d'Irlande, le cargo irlandais, et le Rachel Corey qui n'arrive pas à nous rejoindre. Et on part comme ça.
Come on, canta Godambour, e canta, 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 canta Palestina, canta, canta esperança, e que esperança canta, disparada no mundo. Jura Betelém, como são vocês, jura Betelém, como são vocês, jura. Eu sou a luna, mas que nego lur, eu sou a luna, mas que nego lur, eu sou a luna. É canta, 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 canta o tambor, é canta, 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 canta Palestina, canta, canta a esperança, e que a esperança canta. Disperado no mora. Ele me imaginou ali que é Palestina. Ele me imaginou. É canta, 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 canta com o tambor. É canta, 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 canta Palestina. Canta, canta a esperança, e a esperança gama, disparada no mor, no mor. Canta, Palestina.
Eh oui, même en matière de musique, en tout cas, on peut être solidaire et international en parlant de Palestine, puisque c'était Enzo Habitabile qui chantait Botare, Botare, un chant pour la Palestine. Puisque aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Sommer-Houdeville et nous parlons de son livre La flottille, solidarité internationale et piraterie d'État au large de Gaza. Mais avant de parler de la flottille auquel tu as participé donc en 2010, donc c'était après il y a un an, donc je pense qu'à cette époque-là, à peu près, tu étais en mer, en Méditerranée. On pourrait peut-être revenir sur la flottille, quoi, les bateaux. Je crois qu'il y en avait deux, c'est ça ?
Sur la première, enfin, la première, c'était en 2008. Donc
voilà,
c'est les mêmes camarades grecs qui sont. Mais de toute façon, les Grecs, c'est un peuple de marins, donc tout le monde est marin en Grèce. C'est comme ça. Et l'idée, elle naît aux États-Unis. D'une petite bande, pareil, d'activistes de la solidarité avec la Palestine, et qui essayent par tous les moyens d'avoir un bateau, deux bateaux, pour arriver dans le port de Gaza. Et ils n'y arrivent pas, parce que c'est compliqué pour eux, ils sont très loin, ça se passe mal. Et c'est des camarades grecs que nous, on connaît très bien, et qui leur sauvent la mise, et qui, en fait, par des contacts, comme ça, d'amis, ou de camarades, sont au courant de cette histoire et arrivent à dégoter deux bateaux.
Et ils partent. Quel type de bateau, en fait ?
Deux petits bateaux de pêche typiquement grecs, des vieux bateaux de pêche grecs. Et ils partent à l'aventure, parce que là, pour le coup, c'était une vraie, vraie aventure. Ils ne savaient pas s'ils arriveraient jusqu'à Gaza. Et si leur bateau, et si tout...
Et qu'y avait-il dans ces bateaux ?
Il y avait une trentaine de militants de la solidarité internationale avec la Palestine, mais aussi, par exemple, quelqu'un comme Jeff Halper, qui est un militant connu, israélien, juif, militant anticolonialiste, qui dirige l'ICAD, qui est... International Committee Against House Demolition, le comité international contre la démolition des maisons palestiniennes. D'autres militants connus comme Houaida Haraf, qui est la fondatrice de ISM, justement, et d'autres gens, un député grec. Et ils partent sur ces deux petites coquilles de noix. Et c'est pareil, là, personne n'est au courant de cette histoire parce qu'ils l'ont maintenue au secret jusqu'au dernier moment. Il faut voir un film qui s'appelle Gaza, We're Coming, qui raconte cette histoire-là, qui est un film extraordinaire. Et donc, au dernier moment, tout le réseau militant international de la solidarité internationale découvre qu'il y a ces deux bateaux qui partent vers Gaza. Et donc, tout le monde... Il y a des pétitions qui se créent. Tout le monde essaie de contacter tous les relais qu'on a pour... Et puis, ils arrivent à Gaza. C'est extraordinaire.
Ils sont arrivés comme ça. Est-ce qu'il y avait un port à peu près adapté à Gaza, finalement ?
Il y a eu un port à Gaza qui a été détruit de multiples fois et réparé ou essayé d'être reconstruit de multiples fois. Et donc, il y a un bout de port à Gaza. Et donc, ils ont pu rentrer sans problème. Mais cela dit, ils ont failli pas arriver, évidemment, parce qu'ils ont eu maille à partir quand même avec la marine de guerre israélienne. Mais qui, cette fois-là, a décidé de pas intervenir. Elle aura fait des grosses frayeurs, mais elle n'est pas intervenue. Et donc, pendant 3-4 mois, de août 2008 jusqu'à fin novembre 2008, ils vont réussir à rentrer et sortir de Gaza 4, 5 fois, 6 fois, je crois. Et puis à partir de novembre 2008, la marine israélienne, enfin, l'État israélien décide que c'est terminé et les arrête, coule pratiquement un bateau, etc. Et donc cet épisode-là en 2009, les copains grecs, américains, etc. décident de recommencer, mais en disant cette fois-ci, il faut qu'on trouve... on n'y va pas avec des bateaux de pêche, mais on y va avec un cargo, on y va avec...
Une vraie organisation, avec vraiment du poids, un côté masse.
On essaye d'avoir plus de poids, plus de masse, mais au début, c'est quand moi je suis en contact avec les Grecs, au moment de ce qu'on est en train de faire au Caire, etc., ils ont dans l'idée d'envoyer un cargo, ils sont en lien avec les amis suédois, avec les copains américains, plus un ou deux bateaux. Mais en 4-5 mois, ils passent de 2-3 bateaux, mais qui sont des gros bateaux, enfin, plus gros que les deux petits bateaux pêcheurs, mais donc un vrai cargo et deux gros bateaux passagers. Et puis, on devient 6 bateaux, et avec effectivement des Turcs, des Suédois, des Américains, des Irlandais, des Algériens. Et ça devient une vraie organisation internationale.
J'imagine que ça n'a pas dû être évident, par exemple, entre les Turcs et les Grecs, de travailler ensemble.
Non, et je pense que c'était extraordinaire même. C'est faire travailler les Grecs et les Turcs, qui sont les frères ennemis de cette partie-là de la Méditerranée. Il y a, avec y compris tous les problèmes vis-à-vis de Chypre, l'occupation. Ça a été très compliqué, mais je pense que ça a été extrêmement bénéfique parce que ça a rapproché... des militants, des citoyens qui se connaissaient pas, qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, mais y compris des populations aussi, qui tout d'un coup se sont mis, parce que ça s'est passé comme ça en Grèce et en Turquie, parce qu'en Grèce, par ailleurs, les copains qui organisent cette flottille, ils ont le soutien réel de toute la Grèce derrière eux et de dizaines d'organisations syndicales, politiques, associatives. Et tout d'un coup, les Grecs et les Turcs, ils ont vibré au même moment des gens qui partaient vers Gaza ensemble et qui montraient qu'on pouvait être effectivement grec, turc, suédois, homme, femme. Ce qui était très, très fort aussi, c'était que le porte-parole, qui est toujours le porte-parole de toute l'organisation suédoise, c'est un juif israélien qui s'appelle Dror Freler, qui est par ailleurs un artiste de jazz extrêmement fort. Et donc, on pouvait, voilà, c'était de montrer ça. On pouvait être musulman.
C'était un peu le taboulé de l'humanité.
Mais exactement, c'était, nous, on l'appelait, c'était l'union des peuples de la Méditerranée et au-delà, mais la vraie union des peuples de la Méditerranée. Et c'était de montrer qu'on pouvait se battre ensemble, vivre ensemble, pour une cause commune et juste, qui est le droit, la justice, la Palestine.
Pourtant, en Grèce, c'était dans un contexte un peu particulier, parce qu'à cette époque, il y avait des grosses manifs, il y avait quand même une crise économique, donc ça n'a pas empêché les militants...
Il faut se rappeler que l'année dernière, la Grèce prend de plein fouet le résultat de la crise économique et donc prend de plein fouet des mesures d'austérité terribles. Il y a pratiquement un mois de grève générale, des manifestations extrêmement dures, il y a des morts. Donc effectivement, il y a un pays qui est mobilisé, et à juste titre, face aux nouvelles mesures ultralibérales, la nouvelle sauce ultralibérale à laquelle on les mange, et pour sauver les banques qui les ont foutues, qui ont noyé le pays. Donc il y a une situation sociale qui est extrêmement dure, mais en même temps... ça n'a rien empêché, au contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai participé, on est allé à quelques manifs où on était extrêmement bien reçus. Je sais que les Grecs, ils avaient des collectifs partout. Dans chaque village grec, il y avait des gens qui se mobilisaient pour leur bateau. Et même si les gens, ils se battaient au même moment pour essayer de conserver le peu de droits qui leur restaient, le peu d'acquis sociaux qui leur restaient, et ben, en même temps, ils se sont battus aussi pour ce bateau.
Et ces bateaux, il fallait les remplir, parce que finalement, vous y alliez en tant que représentant des peuples du monde, mais vous vouliez aussi amener du béton, vous vouliez amener...
Non, il y avait une opération qui à la fois a une portée politique et qui est celle de dénoncer l'injustice qui est commise en Palestine et de dénoncer un blocus qui est illégal, qui est inhumain, et l'hypocrisie de la communauté internationale. Mais c'était aussi de dire, très bien, si vous ne prenez pas vos responsabilités, nous, on les prend. Et puisqu'il faut reconstruire Gaza, nous, on va envoyer des cargos, on va remplir de matériel de construction, mais aussi de générateurs électriques pour les hôpitaux, d'unités de traitement d'eau, et puis on va aller là-bas. Et parce que n'empêche que la crise humanitaire qui aujourd'hui sévit à Gaza, elle est réelle, et que les gens ils vivent dans ces conditions-là à cause du blocus. C'est ça qui est terrible. C'est pas un tsunami qui a frappé Gaza, c'est pas un tremblement de terre, c'est un blocus sciemment imposé.
C'est un véritable choix politique, oui, et humain.
Donc effectivement, il a fallu remplir nos bateaux, et on les a remplis. Et on les a remplis de tout ce qu'on a pu les remplir. Mais pareil, on n'a pas rempli ces bateaux avec n'importe quoi. Il ne s'agissait pas de mettre...
Vous n'avez pas porté du maquillage et de quoi faire nouer.
Ni du maquillage, ni y compris de la charité. Ce n'est pas de la charité qu'on allait faire à Gaza. C'est, les gens là-bas, ils sont dignes. Ce qu'on est allé faire, c'est vraiment une solidarité en acte. Et donc, on a amené... ce qui était important pour eux qu'on amène, c'est-à-dire effectivement les moyens de pouvoir reconstruire et de pouvoir retrouver une vie normale.
Digne et en tout cas normale, et qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Oui. Et d'ailleurs, dans ton livre, il y a une petite anecdote que tu racontes sur les dockers grecs qui vous ont aidé largement.
Oui, mais même je raconte qu'on joue la compétition entre les dockers grecs et les dockers irlandais, à savoir lesquels auront été les plus mobilisés pour cette flottille. Et effectivement, et les Grecs, ils sont en pleine grève, les dockers grecs, ils sont comme tout le reste du pays en pleine grève générale, mais ils assurent le chargement avec nous du cargo et des bateaux. Donc ils viennent travailler gratuitement pour organiser le chargement des bateaux, parce que ça, c'était impossible de le faire sans eux. C'est techniquement, et puis il y a un côté, c'était dangereux, ça aurait été dangereux de le faire.
Il faut des professionnels parfois.
Il faut des professionnels pour le faire. Mais donc, alors après, nous, on était là pour leur donner un coup de main, mais c'est vrai que c'était très fort de voir ça en pleine grève générale, les dockers qui disent, OK, nous, on remplit aucun bateau sauf celui-là. Et voilà, c'était très fort.
Là, tu parlais du bateau irlandais. D'ailleurs, je crois que le bateau irlandais, c'était le Rachel Corrie,
oui,
c'est ça ?
Oui, il s'appelait Rachel Corrie.
Peut-être que tu pourrais rappeler qui est Rachel Corrie.
Bien sûr, ben, Rachel Corrie, c'est une militante de ISM, donc de International Solidarity Movement, qui a vécu à Gaza pendant quelques mois en... je pense que c'est en 2005, 2004 ou 2005.
2003.
2003. Ouais, le temps passe. 2003, et qui a été tué par l'armée israélienne à Gaza, alors que l'armée israélienne était en train de détruire une maison sur ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie, donc qui est très proche de la frontière égyptienne. Et donc l'État israélien, pour protéger les colonies qui habitaient à l'époque, mais aussi pour avoir la visibilité de ce qui se passait à la frontière entre Gaza et l'Égypte, a rasé des bandes de plus en plus larges du territoire de Gaza. Et voilà, donc il rasait tout, les arbres, les maisons. Et donc les militants de ISM, à ce moment-là, à Gaza, ils essayaient d'empêcher les maisons d'être détruites. Et en fait, elle a été tuée, écrasée par un bulldozer israélien.
Parce que on parle de Rachel Corrie, mais on parle d'une autre époque en fait, même pour Gaza, parce que en fait, on n'est pas remonté jusque là, mais Gaza est soi-disant libéré de ses colons depuis 2006. Mais en fait, on se rend bien compte que c'est une situation qui a empiré pour les Gazaouis par rapport à justement au temps où ils vivaient avec les colons. Enfin, empiré, bon, c'est difficile on n'est pas là pour quantifier, mais ils n'étaient peut-être pas autant enfermés à l'époque où les colons israéliens étaient là, sur la bande de Gaza, qu'aujourd'hui sous blocus.
Enfermés, c'est sûr. Enfermés de la façon dont là ils le sont, ils ne l'ont jamais été comme ça. Après, c'est toujours pareil, je ne sais pas si pour Gaza, il vaut mieux vivre avec ou sans les colons, mais la réalité, c'est que oui, jusqu'à 2005-2006, il y avait à peu près une dizaine de milliers de colons qui vivaient à Gaza et qui, entre guillemets, justifiaient la présence physique de dizaines et dizaines de milliers de soldats dans Gaza et qui occupaient militairement Gaza. Depuis 2006, c'est le retrait unilatéral ordonné par Sharon à l'époque. Tous les colons sont sortis de Gaza. Sauf que c'est pareil, on dit Gaza n'est plus occupé. Du point de vue du droit international, on peut encore dire que Gaza est occupé parce que certes, il n'y a plus de colons dans Gaza, mais l'armée israélienne contrôle donc l'air, tous les moyens, organise un blocus, pardon, à la fois terrestre, aérien et maritime de la bande de Gaza, rentre régulièrement dans la bande de Gaza de manière militaire. Ça reste un pays occupé par Israël.
Et sous contrôle
militaire israélien. Voilà.
Donc, en tout cas, on comprend largement pourquoi cette flottille a été organisée. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres, puisque la situation ne s'est pas améliorée depuis.
Eh bien, bien sûr, en fait. Cela dit, il y a eu des choses qui ont été intéressantes. Malgré la tragédie, malgré le fait qu'on a été attaqué de la manière la plus terrible qui soit. En plus, dans les eaux internationales, à 4h30 du matin, voilà un État reconnu par la communauté internationale qui attaquent comme des vulgaires pirates, comme si on avait été au large de la Somalie ou dans la mer de Chine, des bateaux civils non armés qui les attaquent, qui les arraisonnent, qui ouvrent le feu à balles réelles sur au moins l'un des navires. Ils tuent 9 personnes, mais ils en blessent une cinquantaine d'autres, dont 30 grièvement. Quand on dit que les Israéliens disent on a attaqué un bateau, c'est pas vrai. Ils ont attaqué l'ensemble des bateaux. L'ensemble des bateaux ont été attaqués. Nous, les commandos, sont montés sur notre bateau comme ils sont montés sur les autres bateaux. On s'est fait taper dessus. On s'est ramassé du taser. Et à la sortie, parce que ça prenait trop de temps tout ça, on s'est retrouvé braqué avec des vrais flingues et des vrais fusils mitrailleurs. Et ensuite, on a été kidnappés. sur le territoire israélien, alors qu'on était dans les eaux internationales. Nos bateaux ont été saisis.
Donc là, vous avez quitté la Grèce, vous avez tenté d'arriver vers Gaza. Vous fonctionniez en flottille, j'imagine, tous les bateaux, tous ensemble, s'étaient réunis.
Bien sûr. À ce moment-là, quand on est attaqué, on est à plus de 90 miles des côtes.
Donc d'un point de vue légal, c'est de la piraterie.
On peut tourner les choses dans tous les sens. Ce qu'on fait Israël, c'est complètement illégal et c'est c'est complètement en dehors de tout droit maritime international, etc. Et notamment le fait donc de nous kidnapper, de nous amener sur le territoire israélien de force.
Ils vous ont amené de quelle façon?
Ah ben, en fait, ils ont pris nos bateaux. Nous, on s'est retrouvés tous les uns sur nos bateaux bloqués dans un coin du bateau. Et ils ont fait changer le cap des bateaux pour les amener dans le port d'Ashdod.
De vrais pirates, quoi.
De vrais pirates. Et donc, ils ont saisi donc, l'ensemble des bateaux. Effectivement, les cargaisons des bateaux. Mais pas que ça. Ils ont saisi toutes nos affaires. Ça veut dire les vêtements, les valises, les téléphones, les appareils photos,
les ordinateurs,
pour certains leurs papiers d'identité comme moi, pour d'autres leurs cartes bleues, bref, tout ça a été saisi et pratiquement rien n'a été rendu.
Parce que dans la flottille qui participait, il y avait des journalistes, il y avait des prix Nobel, il y avait des écrivains, il y avait quand même.
C'était
pas n'importe qui.
Il y avait beaucoup de médias, mais il y avait quelques personnalités. Cette année, nous aurons beaucoup plus de personnalités, d'élus et de personnes comme ça. Mais il y avait effectivement quelques personnalités. D'ailleurs, qu'Israël, évidemment, dont les commandos israéliens ont fait attention quand même à pas trop maltraiter. Mais effectivement, ces gens-là. Il y avait des gens comme ça. Il y avait un écrivain très fameux, Hans Menkel, qui a raconté d'ailleurs dans Libération comment ça s'était passé. Et donc, ils nous ont tous kidnappés, envoyés. On est arrivé à Ashdod. À ce moment-là, on a passé de très mauvaises heures sur le port d'Ashdod où on avait un comité de réception qui s'est chargé de effectivement nous mettre la pression très fort et de taper. Extrêmement violemment ceux qui étaient considérés comme un peu les organisateurs et les porte-parole de cette flottille. Et ensuite, on a été jetés en prison. Et en prison dans le sud d'Israël. C'est assez marrant, mais contrairement à tout ce qui a été dit, etc., on a été jetés en prison du point de vue légal israélien. On a été jetés en prison parce qu'on a tenté de rentrer de manière illégale sur le territoire israélien.
Mais c'était pas la Palestine, parce que normalement ils sont pas partis. Ils ont
C'est pour ça qu'on a refusé de signer ce papier, parce qu'en fait, dans le port d'Ashdod, au bout d'un moment, on avait la solution. Soit on signait un papier qui faisait qu'on reconnaissait être entré illégalement, avoir tenté d'entrer illégalement sur le territoire israélien, soit on allait en prison. Donc on a pratiquement tous refusé de signer ce fichu papelard. Mais c'est la seule accusation que l'État israélien avait contre nous. En aucun cas, contrebande, en aucun cas terrorisme, en aucun cas rien du tout. La seule chose, c'est ça, c'est tentative d'entrée illégale sur le territoire israélien, ce qui est extrêmement marrant, parce que quand ils nous ont attaqués, on était dans les eaux internationales et on se dirigeait aucunement vers le territoire, dans le territoire, ni vers les eaux territoriales israéliennes, ni vers le territoire israélien, on se dirigeait vers Gaza. Donc, à croire qu'effectivement, pour les Israéliens, ils sont partis de Gaza, mais ils y sont encore un petit peu, quoi.
Mais ils y sont encore un petit peu, et c'est ça qui a fait que tu as fini en prison. Alors, j'imagine que c'est pas une expérience la plus agréable qui soit, la prison israélienne.
Non, c'était pas je pense que c'est jamais agréable d'aller en prison. Mais cela dit, c'était l'endroit où on s'est le mieux comporté avec nous. Parce qu'après, on a eu le droit encore à une séance de bastonnade à l'aéroport avant de partir, une fois qu'on a été expulsé. Et la prison, tout compte fait, ça a été l'endroit où, enfin, pour moi, hein, après, on s'est comporté. On s'est comporté comme on se comporte dans des prisons à peu près normal avec des prisonniers, c'est-à-dire que c'était pas agréable, mais globalement, pour moi, c'est l'endroit où on s'est le mieux comporté avec nous.
Alors, lors de l'assaut israélien sur la flottille, à peu près tous les politiques ont dit non, mais ils n'avaient pas le droit, ils ont fait quelque chose d'illégal. Mais l'ambassade de France, ils ont fait quelque chose pour vous, les ambassades de Turquie, de Grèce
Ce qu'il faut se rappeler, c'est déjà, il faut se rappeler que donc, deux jours avant qu'on arrive au point où on s'est fait attaquer, le gouvernement Sarkozy, par le biais du ministère des Affaires étrangères, qui était Kouchner à l'époque, a sorti un communiqué qui disait deux choses. Un, le blocus doit être levé immédiatement. Et deux, les navires de la flottille doivent pouvoir arriver à Gaza. Donc c'est ça, la position officielle de la France à ce moment-là. Une fois qu'on s'est retrouvé en prison en Israël, il y a eu un scandale très fort, partout dans le monde, de toute façon, avec ce qui venait de se passer, les 9 morts, etc., les gens qui avaient été assassinés sur les bateaux, il y a eu un scandale extraordinaire. Et le gouvernement Fillon, à l'époque, a tapé du poing sur la table à l'Assemblée en disant « nous allons récupérer nos nationaux », etc. Mais la vérité, c'est que si on a pu sortir assez rapidement de cette affaire, et de la prison notamment, c'est parce que les Grecs et les Turcs ont mis tous les moyens nécessaires et ont, eux, réellement tapé du poing sur la table et ont, eux, déplacé leurs ambassadeurs et directement à la prison, etc. Et ont organisé le retour de tout le monde et en disant, de toute façon, soit on part avec tout le monde, soit on part pas. Et on fera partir les avions et les machins, etc., que quand on sera sûr que l'ensemble des gens qui sont de la flottille sont sortis de prison et sont rentrés chez eux. Malheureusement pour eux, voilà, heureusement pour nous, ils ont fait ça. Malheureusement pour nous, effectivement, les Français n'ont réussi qu'à déplacer quelqu'un d'assez sympathique, mais qui n'avait pas de poids, qui était le vice-consul de Jérusalem. Et lui, il a pu nous voir une fois dans la prison, mais quand on a eu ça je le raconte dans le bouquin, mais on a eu un certain nombre de problèmes parce que moi, il ne retrouvait pas mes papiers, parce que, bref, on était 3-4 Français où on n'avait pas nos papiers, il ne savait pas s'il voulait nous expulser ou pas, enfin, etc. Et c'est en fait l'ambassadeur grec qui nous a sauvé la mise, parce qu'il nous a dit, c'est pas grave, je vous prends dans mon avion et vous partirez avec moi. Et il avait besoin d'un certain nombre de papiers de l'ambassade de France qui lui donnait l'accord, etc., qui ne sont jamais arrivés.
Mais vous avez fini par rentrer.
Mais on a fini par rentrer parce qu'il a dit, ok, allez, hop, je vous emmène avec moi.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors ce soir, nous sommes avec Thomas Sommer-Houdeville et nous parlons de la Palestine. La Palestine, puisqu'il a participé à la flottille qui avait pris le large l'an dernier pour tenter de mettre à mal le blocus de Gaza. Donc vous avez essayé, finalement vous avez essentiellement connu les prisons d'Israël et non Gaza. Mais la situation, en tout cas la lutte continue. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même une flottille qui s'organise, une flottille qui, on l'espère, sera encore plus importante. On a commencé en 2008 avec quelques bateaux qui sont arrivés. La dernière fois, en 2010, il y avait quoi ? Il y avait 9 bateaux ?
Il y avait, non, 7 bateaux.
7 bateaux. Donc là, ça s'organise. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. Juste faire un petit sur la fin de parce que effectivement on s'est retrouvé dans les prisons, il y a eu des morts, etc. Mais par contre, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui sont à mon avis importantes. La première, c'est que il y a un mouvement, y compris d'isolation diplomatique d'Israël, qui a grandi, qui a commencé avec l'opération Plan de Durci, mais qui avec l'histoire de la flottille s'est étendu. C'est-à-dire que notamment aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des pays d'Amérique du Sud sont soit dans une position où directement ils boycottent, c'est-à-dire qu'ils boycottent Israël, enfin diplomatiquement Israël, soit ils ont gelé un ensemble d'accords militaires ou de coopération avec Israël. Au moment de la flottille, l'Afrique du Sud, par exemple, a renvoyé son ambassadeur. Avec la Turquie, évidemment, ils étaient à deux doigts d'être en guerre, hein, parce que ce qu'ils ont fait... À la Turquie, ça a été quand même un truc très dur. Et je pense que ça, les relations entre la Turquie et Israël sont plus jamais les mêmes. Avec la Grèce, notamment, il y a eu tout un tas de coopérations qui ont été gelées. Et donc, il y a ce mouvement comme ça. En tout cas, ça a permis aussi de montrer que certains États étaient capables... de prendre des sanctions contre Israël, même si ce n'était pas des sanctions définitives, même si c'était des gels provisoires. Mais il y a eu... Et ça, c'est quand même très nouveau. C'est quand même très nouveau. Juste, je termine. Deuxième chose, ils ont été obligés de faire passer quand même pratiquement 60% de notre chargement à Gaza via l'ONU. Et puis, ils ont été obligés d'alléger un peu le blocus. Alors évidemment, tout ça, c'est cosmétique parce que ils ont réduit la liste des produits interdits. Parce que jusqu'à l'année dernière, il faut aller voir une organisation, une ONG israélienne des droits de l'homme qui s'appelle JISA et qui avait réussi à trouver la liste des produits interdits, alors qu'ils changeaient régulièrement. Mais quand même, la liste des produits interdits par Israël... c'est-à-dire d'entrer dans Gaza, ça allait de la page A4, en passant par la noix de cajou, les jouets pour enfants, le béton évidemment, mais le poivre, c'est complètement...
Kafkaïen.
Et cette liste, donc ils ont effectivement réduit des choses, la viande, par exemple, la viande rouge, ça apparaissait sur la liste. Ils ont donc réduit des choses. Mais évidemment, c'est loin d'être suffisant. Et c'est pour ça que, fort à la fois du soutien international, parce que c'est vrai que quand on est revenu dans nos pays respectifs, on s'est aperçu qu'on avait un soutien populaire extraordinaire. Et puis, en se disant que On était sur un combat politique qui pouvait prendre et sur lequel on pouvait peut-être peser, y compris vis-à-vis de nos gouvernements. On a décidé de relancer une nouvelle flottille, mais en disant à chaque fois, on essaye d'augmenter la nature et la quantité, et notamment de dépasser le cercle un peu trop militant des flottilles, et d'avoir des vraies campagnes de masse populaires, citoyennes, qui mobilisent vraiment les sociétés dans tous nos pays, et qui font que nos bateaux, quand ils seront sur la mer, ils seront vraiment portés par un élan qui dépassera les réseaux de solidarité habituels avec la Palestine.
Dans le livre, vous en parlez, mais aussi on voit bien quand on voyage dans les pays anglo-saxons où la lutte contre l'occupation palestinienne, c'est aussi une lutte contre l'apartheid israélienne. Et on peut faire une comparaison qui n'est pas forcément juste, mais en tout cas avec la situation et les mouvements de solidarité et de boycott qui ont été quand même très importants au moment de l'apartheid en Afrique du Sud.
Oui, mais moi je pense qu'on peut avoir un débat d'historien ou de politologue sur est-ce qu'il y a un apartheid en Israël, ou en tout cas est-ce que c'est l'apartheid, c'est la même chose exactement que ce qu'il y a eu en Afrique du Sud. La réalité, c'est qu'il y a une vraie situation de discrimination, une vraie situation de racisme institutionnel, une vraie situation d'occupation violente, et que c'est ressenti comme étant, tout compte fait, un système très équivalent, aussi injuste, aussi oppressif et aussi détestable que le système d'apartheid en Afrique du Sud. Et par ailleurs, c'est bien ça aussi qu'on est en train de dire, c'est que dans les années 70-80, ou plutôt à la fin au début-milieu des années 80, l'Afrique du Sud est devenue le symbole d'une lutte pour la justice, d'une lutte contre l'injustice, contre le racisme, contre les discriminations, pour l'égalité, et que c'est devenu un symbole universel. Et que quand on disait Afrique du Sud et qu'on pensait Mandela, on pensait effectivement à un combat juste qui pouvait être compris par tout le monde. Et que, après tout, qui n'était pas très loin des gens. Enfin, aujourd'hui, quand vous pouvez vous battre ici pour gagner des conditions de salaire, pour se battre, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement Sarkozy a vidé les sans-papiers tunisiens et les ont arrêtés. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je pense que c'est un vrai scandale. C'est une vraie horreur. Mais, mais tout ça, aujourd'hui, ça peut être symbolisé par une chose, la Palestine, par un peuple qui résiste à l'occupation, à une occupation ultra-violente et complètement injuste. Et l'Afrique du Sud, c'était ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le symbole, il y a 20 ans, c'était l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est la Palestine. Et l'histoire de l'Afrique du Sud et du boycott, c'est quoi ? Pourquoi il y a un mouvement international de boycott qui se crée vis-à-vis de l'Afrique du Sud ? C'est parce qu'il y a une situation d'injustice et qui est ressenti dans le monde entier, mais sauf que l'Afrique du Sud, il faut bien se rappeler ce que c'est à l'époque, dans les années 70, parce que le mouvement du boycott de l'Afrique du Sud, il démarre dans les années 60. Les premiers qui lancent des mouvements de boycott, c'est dans les années 60, contre le régime d'apartheid. Mais dans les années 80, le mouvement, il grandit de manière extraordinaire, parce que dans le monde entier, c'est compris et ressenti ce qui se passe comme une injustice universelle. Et que l'Afrique du Sud, c'est l'allié des États-Unis en Afrique, c'est l'allié d'une partie de l'Europe en Afrique, et que personne ne fait rien. Et qu'on condamne, et qu'effectivement, on déplore. Mais la réalité, c'est que personne, aucun gouvernement, la communauté internationale, l'ONU, personne ne prend ses responsabilités. Et donc, il y a un mouvement citoyen qui dit très bien, puisqu'on a la communauté internationale qui se paye de mots et nos gouvernements qui font rien, et ben nous, on va sanctionner. L'Afrique du Sud, c'est un État voyou qui devrait être sanctionné pour faire pression sur lui pour qu'il change de politique. Mais puisque personne ne le fait, ben nous, les citoyens, on va le faire.
Et sur la Palestine, il y a un mouvement de boycott qui est le mouvement BDS.
BDS, boycott des investissements sanctions, et qui dit exactement la même chose. Qui dit Israël doit changer de politique. Israël, on doit imposer et le droit international et la paix à Israël. Et pour ça, effectivement, Israël doit être sanctionné quand il ne respecte pas le droit international, quand il opprime les Palestiniens, quand il massacre les Palestiniens, que ce soit dans les territoires ou à Gaza. Et puisque les gouvernements ne le font pas, eh ben nous, on va le faire. On va le faire de manière symbolique, mais on va le faire de manière réelle. Et puis, on va faire pression sur nos gouvernements. Je rappelle quand même que, par deux fois, l'Assemblée européenne a voté un moratoire sur les accords euro-Israël. Ces accords ont été créés au moment du processus d'Oslo, à la fin du processus d'Oslo, et que ces accords font bénéficier à l'ensemble des produits israéliens qui rentrent sur le territoire européen d'une exemption de taxes. Ça, c'est dans le cadre des rapports de bon voisinage et d'Euromède, etc., etc. Mais sauf qu'ils sont conditionnés à deux choses. Un, le respect des droits de l'homme par Israël, et deux, ce qu'on appelle la règle d'origine, qui veut que ne sont exemptés de taxes que les produits qui sont fabriqués dans les frontières internationalement reconnues d'Israël, qui sont celles de 67. Or, la majorité des produits qui sont consommés en Europe, exportés par Israël, sont aujourd'hui, et notamment les produits agricoles, fabriqués dans les colonies. Donc, pour ces deux mesures, de ces deux raisons, et ça depuis longtemps, hein, depuis le début des années 2000, l'Assemblée européenne, par deux fois, a dit « Ok, on gèle les accords pour signifier à Israël qu'elle doit respecter ses engagements, et qu'elle doit respecter les droits de l'homme, et qu'elle doit respecter la règle de l'origine. » Et ça veut dire aussi avoir arrêté de coloniser, comme elle le fait encore, la Cisjordanie. À chaque fois, c'est la Commission européenne qui sont donc et surtout le Conseil des ministres européens qui ont cassé la décision de l'Assemblée européenne. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai déni, y compris de démocratie, parce que nos représentants, c'est les élus de l'Assemblée européenne. Et donc, pour revenir à cette campagne de BDS, c'est une campagne qui dit une chose simple, qui dit « nous voulons que la communauté internationale, nos États, prennent leurs responsabilités et imposent à Israël de respecter le droit international et de respecter ses accords et de respecter ses engagements et tout compte fait, de faire la paix, d'arrêter la colonisation, de rendre les territoires occupés, etc. Et puisque nos gouvernements ne le font pas, et ben nous, on va le faire. Et c'est ça, BDS.
En tout cas, tout le monde peut participer à cette campagne.
Exactement. Et
c'est
campagne,
assez facile.
C'est une campagne qui est très simple, qui est un acte militant, citoyen, et je pense qui montre aussi aux gens qu'on peut faire quelque chose, qu'on n'est pas forcément dépourvu de moyens d'action. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce soit pour ça ou pour tout un tas d'autres choses, l'impression qui domine, c'est que de toute façon, on ne peut rien faire. Mettre 3 millions de gens dans la rue, la réforme des retraites, elle passe quand même. Mais je pense qu'on peut s'indigner et pleurer quand les Palestiniens sont massacrés, mais ça ne change pas, ça ne change rien. Mais le BDS, la campagne BDS, c'est un outil à la portée de tout le monde qui permet de sanctionner. Et plus on sera nombreux à aller rentrer dans cette campagne, plus on fera pression sur Israël, mais surtout sur nos gouvernements. Il faut bien se dire une chose. Je rappelle, en Afrique du Sud, la campagne de boycott contre l'Afrique du Sud, elle a commencé dans les années 60. Il n'y avait personne. Il aura fallu pratiquement 25 ans pour que la campagne, elle devienne une campagne de masse internationale, y compris financée par l'UNESCO. Donc,
on espère que ce sera plus rapide.
On espère que ce sera plus rapide.
Déjà,
mais je pense que par ailleurs, les résultats de cette campagne, elles sont bien plus rapides parce qu'il y a déjà un ensemble de pays comme la Suède, comme la Norvège, par exemple, qui ont retiré l'ensemble de leurs fonds d'investissement d'Israël, que vous avez un ensemble d'entreprises qui ont fait la même chose. Vous avez même une université comme Harvard qui a retiré l'ensemble de ses fonds d'investissement d'Israël. Alors, sans dire que pourquoi, mais ils l'ont fait. Et puis, vous avez des dizaines d'artistes, y compris, qui ont refusé d'aller se produire en Israël. Donc, je pense que cette campagne, elle marche. Et la flottille, c'est la même chose, dans l'autre sens. C'est-à-dire que voilà une situation où Gaza, il y a une crise humanitaire. Il y a un blocus qui est illégal, il y a l'urgence d'une action internationale pour ouvrir cette prison. Et puisque les gouvernements ne le font pas, et ben nous, les citoyens, on le fait.
Et petite dernière petite question, justement, on le fait, et si les gens veulent participer à la flottille, comment...
Eh bien, tout à fait. Ils peuvent participer de plein de façons différentes. La plus simple, c'est déjà d'aller sur notre site. Ça s'appelle www.unbateaupourgaza.fr. Et là, ils verront déjà l'état de la mobilisation, parce que ça, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais on a une mobilisation extraordinaire en France. On a des centaines de collectifs qui font des actions tous les jours, qui font des meetings, qui font des concerts, qui font des repas dans les quartiers. Enfin, on a récolté pratiquement 500 000 euros aujourd'hui, ce qui nous permet d'acheter un bateau, d'envoyer du matériel humanitaire, de faire plein de choses. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc on peut aller sur ce site-là, prendre contact avec nous. Nous, après, on renvoie sur les collectifs locaux. On peut évidemment donner de l'argent, donner un don pour pouvoir continuer à finir de financer le bateau, etc., le bateau qui partira de France, de Marseille. Donc ça, c'est en envoyant un chèque comme RAP tirer un bateau pour Gaza. Et puis aussi, enfin, moi, je pense qu'au-delà du don, c'est vraiment important de prendre contact avec nous et de prendre contact avec les collectifs locaux, parce que quand on va partir, ce sera la deuxième quinzaine de juin, on aura besoin d'une énorme pression populaire et citoyenne pour justement être sûr que notre gouvernement regardera bien dans la bonne direction.
En tout cas, voilà. Nous, on sera là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la flottille, vous pouvez lire votre... vous avez écrit un bouquin sur la flottille de 2010. Donc, c'est La flottille, solidarité internationale et piraterie d'État au large de Gaza. Et c'est aux éditions Zone.